Chapitre 28. Le pire souvenir de Rogue. Par ordre du ministère de la magie, Dolores Jane Ombrage, grande inquisitrice, remplace Albus Dumbledore à la direction de l'école de sorcellerie Poudlard, conformément au décret d'éducation numéro 28, signé Cornelius Oswald Fudge, ministre de la magie. En une nuit, la nouvelle avait été placardée dans toute l'école. Mais cela n'expliquait pas comment tout le monde dans le château pouvait savoir que Dumbledore avait réussi à s'échapper en terrassant à lui tout seul deux aurores, la grande inquisitrice, le ministre de la magie et son jeune assistant. Partout où allait Harry, on ne parlait que de la fuite de Dumbledore, et bien que certains détails aient été enjolivés, Harry entendit une élève de deuxième année raconter à une amie que Fudge se trouvait à présent à cette mangouste avec une citrouille à la place de la tête. Il était surpris par l'exactitude des informations qui circulaient. Chacun savait, par exemple, que Harry et Marietta avaient été les seuls élèves témoins de la scène. Or, comme Marietta ne quittait plus l'infirmerie, Harry subissait le siège de tous ceux qui voulaient entendre un récit de première main. « Dumbledore sera bientôt de retour !» assura Ernie Macmillan en revenant du cours de botanique, après avoir écouté avec attention Harry raconter l'histoire. « Ils ne sont pas parvenus à se débarrasser de lui au cours de notre deuxième année. Ils n'y arriveront pas plus cette fois. Le moine Gras m'a dit !» Il baissa la voix avec des airs de conspirateur obligeant Harry, Ron et Hermione à se rapprocher de lui pour l'entendre. « Combrage a essayé d'entrer dans son bureau la nuit dernière, après qu'on l'a cherché partout dans le château et dans le parc. Elle n'a pas réussi à passer la gargouille. Le bureau s'est fermé hermétiquement devant elle, » dit-il avec un sourire goguenard. « Il paraît qu'elle a piqué une assez belle crise de rage. »
« Elle devait sûrement s'imaginer trônant à la place du directeur, »
dit Hermione d'un ton hargneux, tandis qu'il montait les marches de pierre qui menaient dans le hall d'entrée.
Elle se voyait déjà régenter tous les autres profs, cette espèce de stupide vieille boursouflure, assoiffée de pouvoir.
« Tu veux peut-être encore ajouter quelque chose, Granger ?»
Drago Malfoy avait surgi de derrière la porte suivi de Crabbe et de Goyle. Son visage pâle et pointu rayonnait de méchanceté.
« Bien peur d'avoir à enlever quelques points à Gryffondor et Poufsouffle, » dit-il de sa voix traînante.
« Tu ne peux pas « enlever des points aux autres préfets, Malfoy !» dit aussitôt Ernie.
« Je sais bien que les préfets peuvent pas enlever de points entre eux, » lança Malfoy d'un ton sarcastique.
Crabbe et Goyle ricanèrent.
« En revanche, les membres de la brigade inquisitoriale... »«
La quoi ?»
demanda Hermione d'un ton sec.
« La brigade inquisitoriale, Granger, »
répondit Malfoy, en montrant du doigt un minuscule « i » argenté épinglé sur sa robe de sorcier juste au-dessous de son insigne de préfet.
« Il s'agit d'un groupe d'élèves triés sur le volet qui soutiennent le ministère de la magie et sont spécialement choisis par le professeur Ombrage. Or, les membres de la brigade inquisitoriale ont le droit d'enlever des points. Donc, Granger... « Je t'enlève 5 points pour avoir été grossière avec notre nouvelle directrice. Macmillan, 5 points pour m'avoir contredit. Potter, 5 points parce que je ne t'aime pas. Wesley, il y a un pan de ta chemise qui dépasse, ce qui te coûtera également 5 points. Ah, et puis j'oubliais, tu es une sang de bourbe, hein, Granger. Ça vaut bien 10 points de moins. »
Ron sortit sa baguette, mais Hermione lui écarta le bras en murmurant
« Non !»«
Sage initiative, Granger, » dit Malfoy dans un souffle. « Une nouvelle directrice s'installe et une nouvelle ère commence. Sois sage, petit pot-potter. Et toi aussi, mon bon roi Ouistiti. »
Éclatant d'un grand rire, il s'éloigna en compagnie de Crabbe et de Goyle.
« Il bluffait !» dit Ernie l'air effaré.
« Il ne peut pas avoir le droit d'enlever des points. Ce serait ridicule. Ça détruirait complètement le système des préfets. » Mais Harry, Ron et Hermione s'étaient machinalement tournés vers le mur où s'alignaient les niches abritant les sabliers géants qui servaient à compter les points des différentes maisons. Le matin même, Gryffondor et Serdaigle étaient en tête dans une lutte serrée pour la première place. Au moment même où ils regardèrent, des pierres remontèrent de bas en haut, diminuant le niveau de la partie inférieure du sablier. En fait, le seul sablier qui demeurait inchangé était celui de Serpentard rempli d'émeraudes.
« Vous avez vu ça ?» dit la voix de Fred.
Georges et lui venaient de descendre l'escalier de marbre et les avaient rejoints devant les sabliers.
« Malfoy vient de nous enlever une trentaine de points en tout !»
dit Harry d'un ton furieux tandis qu'il voyait encore quelques pierres remonter dans la partie supérieure du sablier de Gryffondor.
« Ouais. Montag a essayé de nous faire le même coup pendant la récréation, » dit Georges.
« Qu'est-ce que tu entends par essayer ?»
demanda aussitôt Ron.
« Il n'a pas réussi à prononcer sa phrase en entier, » expliqua Fred, « pour la simple raison qu'on l'a forcé à entrer la tête la première dans l'armoire à disparaître du premier étage. »
Et Hermione parut choquée.
« Mais vous allez vous attirer de terribles ennuis. »
« Pas tant que Montag ne sera pas réapparu, ce qui pourrait prendre des semaines. Je sais pas où nous l'avons envoyé, »
dit Fred avec froideur.
« De toute façon, on a décidé qu'on s'en fiche désormais de s'attirer des ennuis. »«
Parce qu'avant, vous ne vous en fichiez pas ?»
demanda Hermione.
« Non, bien sûr, » dit Georges. « La preuve, on s'est jamais fait renvoyer. on a toujours su où était la limite, » dit Fred.
« On a peut-être posé un orteil dessus, hein, à l'occasion, » admit Georges.
« Mais nous ne sommes jamais allés jusqu'au vrai grand chambardement, » dit Fred.
« Et maintenant ?» demanda Ron d'un ton hésitant.
« Eh bien, maintenant, dit Georges, après le départ de Dumbledore, ajouta Fred, nous avons pensé que notre nouvelle directrice, reprit Georges, méritait bien un peu de chambardement.
« Ne faites surtout pas ça !»
murmura Hermione.
« Surtout pas ! Elle serait ravie d'avoir une bonne raison de vous renvoyer. »
« Je crois que tu ne nous as pas très bien compris, Hermione, » répondit Fred avec un sourire. « Nous n'avons plus envie de rester. Nous partirions volontiers à l'instant même si nous n'étions pas décidés à faire un petit quelque chose en hommage à Dumbledore. »
Il consulta sa montre. « La phase 1 ne va pas tarder à commencer. Si j'étais vous, j'irais tout de suite m'installer dans la grande salle pour déjeuner, comme ça les profs verront que vous n'êtes pas dans le coup. »«
Dans quel coup ?»
interrogea Hermione d'une voix anxieuse.
« Tu verras bien !» dit Georges. « Allez-y maintenant !»
Fred et Georges tournèrent les talons et se fondirent dans la foule des élèves qui descendaient l'escalier de marbre pour aller déjeuner. L'air passablement décontenancé, Ernie marmonna quelque chose à propos d'un devoir de métamorphose inachevé et s'éloigna à toutes jambes.
« Je crois que nous devrions filer d'ici, »
dit Hermione, toujours nerveuse,
« simplement au cas où... »«
Oui, d'accord, » approuva Ron.
Tous trois se dirigèrent vers la grande salle, mais à peine Harry avait-il eu le temps de jeter un coup d'œil au nuage blanc qui filait dans le ciel enchanté que quelqu'un lui tapota l'épaule. Il se retourna et se retrouva presque nez à nez avec Ruzard, le concierge. Harry fit hâtivement plusieurs pas en arrière. Ruzard gagnait à être vu avec une certaine distance.
« La directrice voudrait vous voir, Potter !»
dit-il avec un regard mauvais.
« Je n'y suis pour rien, » répondit bêtement Harry, en pensant à ce que George et Fred préparaient.
Ruzard eut un rire silencieux qui fit trembloter ses bajoues.
« Mauvaise conscience, hein !» dit-il d'une voix sifflante. « Suivez-moi !»
Harry jeta un coup d'œil à Ron et à Hermione, tous deux inquiets. Il haussa les épaules et suivit Ruzard, qui se dirigea vers le hall d'entrée en remontant le courant des élèves affamés. Ruzard semblait de très bonne humeur. En gravissant les marches de l'escalier de marbre, il chantonna quelque chose de sa voix grinçante, et lorsqu'ils arrivèrent au premier étage, il lança soudain
« Les choses changent ici, hein, Potter ?»«
J'ai remarqué, » répliqua froidement Harry.
« Eh oui, pendant des années et des années, j'ai répété à Dumbledore qu'il était trop faible avec vous, »
dit Ruzard avec un ricanement féroce.
« Bande de répugnants, petit goret. Vous n'auriez jamais fait éclater des boules puantes dans le château si vous aviez su qu'il était en mon pouvoir de vous fouetter. « C'est jusqu'à l'os, n'est-ce pas ? Et personne n'aurait eu l'idée de lancer dans les couloirs des frisbees à dents de serpent si j'avais eu la possibilité de vous pendre par les pieds dans mon bureau. Pas vrai, hein ? Mais quand le décret d'éducation numéro 29 entrera en vigueur, Potter, j'aurai le droit de faire tout cela. Et elle a demandé au ministre de signer l'ordre d'expulsion de Piv. Weasleys. Oh oui, les choses seront bien différentes ici, avec elle. Aux commandes.
Ombrage avait dû aller assez loin pour mettre un Cyrusard de son côté, songea Harry. Et le pire, c'était qu'il constituerait pour elle une arme redoutable. Seuls les jumeaux Weasley pouvaient prétendre en savoir plus que lui sur les passages secrets et les cachettes de Poudlard.
« Nous y voilà !»
dit-il en jetant à Harry un regard mauvais. Il frappa à trois reprises à la porte d'Ombrage et entra.
« Le jeune Potter est là !»« Madame !»
annonça-t-il. Le bureau que Harry connaissait bien pour y avoir passé de nombreuses heures de retenue n'avait pas changé. Le seul élément nouveau était la grosse plaque de bois qui s'étalait en travers de la table et sur laquelle était écrit en lettres d'or le mot « directrice ». Son éclair de feu et les brosses-dures de Fred et Georges qu'il vit avec un pincement au cœur étaient à présent attachés par une chaîne cadenassée à un gros piton de fer planté dans le mur du fond. Assise derrière son bureau, Ombrage écrivait d'un air affairé sur l'un de ses parchemins roses. En les voyant arriver, elle leva les yeux et sourit largement.
« Merci, Arcus !»
dit-elle d'une voix douce.
« Je vous en prie, madame. C'était un plaisir !»
répondit Rusard, qui s'inclina aussi profondément que ses rhumatismes le lui permettaient et sortit à reculons.
« Asseyez-vous !»
dit sèchement Ombrage. Elle lui montra une chaise. Harry s'assit et elle continua à écrire pendant un certain temps. Il regarda les affreux chatons gambadés dans leurs assiettes au-dessus de la tête d'Ombrage et se demanda quelles horreurs elle lui réservait cette fois-ci.
« Bien, à nous, maintenant !»
dit-elle enfin. Elle posa sa plume et le regarda comme un crapaud, s'apprêtant à avaler une mouche particulièrement juteuse.
Alors, vous, qu'est-ce que vous voulez boire ?
Pardon, dit Harry, qui était sûr d'avoir mal entendu.
Ce que vous voulez boire, monsieur Potter,
dit-elle, le sourire encore plus large.
Du thé ? Du café ? Du jus de citrouille ?
À chaque boisson qu'elle nommait, elle donnait un petit coup de baguette magique et une tasse ou un verre apparaissait aussitôt sur la table. Rien, merci. « répondit Harry.
« Je souhaiterais que vous buviez quelque chose en ma compagnie !»
insista-t-elle avec une douceur qui devenait menaçante.
« Choisissez !»«
Très bien. Du thé, alors, » répondit Harry en haussant les épaules. Elle se leva et ajouta du lait avec un soin tout particulier, le dos tourné vers lui. Puis, la tasse à la main, elle contourna le bureau. Un sourire d'une amabilité sinistre s'étalait sur son visage.
« Voilà !» dit-elle en lui tendant le thé. « Buvez-le avant qu'il ne refroidisse, voulez-vous ? Maintenant, monsieur Potter, je pense que nous devrions avoir une petite conversation après les pénibles événements de la nuit dernière. »
Il ne répondit rien. Elle retourna s'installer dans son fauteuil et attendit. Après un long moment de silence, elle lança d'un air joyeux.
« Vous ne buvez pas ?»
Il porta la tasse à ses lèvres, puis tout aussi soudainement l'éloigna à nouveau. L'un des horribles chatons peints, derrière Ombrage, avait de grands yeux ronds et bleus, identiques à l'œil magique de Maugret. Et Harry venait de penser à ce que Folœil dirait s'il apprenait qu'il avait accepté de boire quelque chose offert par un ennemi déclaré.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Ombrage, les yeux toujours fixés sur lui.
« Vous voulez du sucre ?»«
Non, » répondit Harry. Il porta à nouveau la tasse à ses lèvres et fit semblant de boire une gorgée tout en maintenant sa bouche hermétiquement close. Le sourire d'Ombrage s'élargit.
« Bien !»
murmura-t-elle.
« Très bien ! Et maintenant ?»
Elle se pencha un peu en avant.
« Ouais, Albus Dumbledore !»
« Aucune idée !» répliqua aussitôt Harry.
« Buvez ! Buvez !»
reprit-elle, toujours souriante.
« Monsieur Potter, cessons les enfantillages. Hein ? Je sais parfaitement que vous connaissez le lieu où il se cache. Dumbledore et vous, vous êtes ensemble dans cette affaire depuis le début. Songez à votre situation, monsieur Potter.
Je ne sais pas où il est. Harry fit à nouveau semblant de boire.
Très bien,
dit Ombrage, l'air mécontent.
Dans ce cas, vous allez avoir l'amabilité de me dire où se trouve Sirius Black.
Harry sentit son estomac chavirer et ses mains se mirent à trembler tellement que la tasse cliqueta dans sa soucoupe. Les lèvres serrées, il fit encore une fois semblant de boire et un peu de liquide chaud coula sur sa robe de sorcier.
« Je n'en sais rien, » répondit-il un peu trop vite.
« Monsieur Potter, »
reprit Ombrage,
« je voudrais vous rappeler que c'est moi qui ai failli attraper le criminel Black dans la cheminée de Gryffondor en octobre dernier. » « Je sais parfaitement qu'il était venu vous voir, et si j'en avais la moindre preuve, vous pouvez être certain que ni lui ni vous ne seriez en liberté à l'heure actuelle. Alors, je vous répète, monsieur Potter, où est Sirius Black ?»«
Aucune idée, » dit Harry d'une voix sonore, « je ne sais pas du tout !» Ils s'observèrent un si long moment que Harry sentit les larmes lui venir aux yeux. Soudain, Ombrage se leva.
« Très bien, Potter, cette fois, je vais vous croire sur parole, mais je vous avertis, j'ai derrière moi la puissance du ministère. Tous les moyens de communication de cette école avec le monde extérieur sont sous contrôle. Un régulateur du réseau des cheminées est chargé de surveiller tous les feux de Poudlard, sauf le mien, bien entendu. Ma brigade inquisitoriale ouvre et lit tout le courrier qui arrive au château ou qui en sort. Et Monsieur Ruzard observe tous les passages secrets qui mènent vers l'extérieur. Si je découvre la moindre petite preuve...
Boum ! Le sol du bureau se mit à trembler. Ombrage glissa de côté en se cramponnant à sa table pour ne pas tomber. Elle paraissait ébranlée.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Elle regarda la porte. Harry en profita pour vider sa tasse presque pleine dans les fleurs séchées du vase le plus proche. Au-dessous, il entendait des gens courir et hurler.
« Retournez déjeuner, Potter !»
s'écria Ombrage. Sa baguette brandie, elle se roua hors du bureau. Harry lui laissa quelques secondes d'avance, puis se hâta de sortir à son tour pour aller voir la cause du tumulte. Elle ne fut pas difficile à découvrir. À l'étage au-dessous régnait un véritable chaos. Quelqu'un, et Harry avait une idée très précise de l'identité des coupables, avait allumé le contenu d'une énorme boîte de feux d'artifice magique. Des dragons, entièrement constitués d'étincelles vert et or, volaient dans les couloirs en produisant des explosions assourdissantes. Des soleils, 1,50 m de diamètre, d'un rose criard, traversaient les airs dans un sifflement meurtrier, tel des soucoupes volantes. Des fusées, au long sillage d'étoiles argentées, ricochaient sur les murs. Des cierges magiques qui écrivaient tout seuls des jurons, qui restaient suspendus en l'air. Des pétards explosaient partout, comme des mines, et au lieu de se consumer, de s'estomper ou de perdre leur élan, tous ces miracles pyrotechniques semblaient gagner en énergie et en mouvement sous les yeux de Harry. Ruzard et Ombrage, pétrifiés d'horreur, se tenaient côte à côte au milieu de l'escalier. Soudain, l'un des plus grands soleils parut se sentir à l'étroit. Dans un sifflement sinistre, il tourna sur lui-même et fonça sur Ombrage et Ruzard, qui poussèrent un hurlement de terreur en se baissant pour l'éviter. Puis il s'envola par la fenêtre et traversa le parc. Pendant ce temps, plusieurs dragons et une chauve-souris violette, qui dégageait une fumée menaçante, profitèrent de la porte ouverte au bout du couloir pour s'échapper vers le deuxième étage.
« Dépêchez-vous, Ruzard ! Vite !»
hurla Ombrage.
« Il faut faire quelque chose, sinon il y en aura partout ! Stupéfix !»
Un jet de lumière rouge jaillit de l'extrémité de sa baguette et frappa l'une des fusées. Mais au lieu de s'immobiliser dans les airs, la fusée explosa avec une telle force qu'elle fit un grand trou dans un tableau qui représentait une sorcière à l'air mièvre au milieu d'une prairie. La sorcière parvint à s'échapper de justesse et réapparut quelques instants plus tard, écrasée dans le tableau voisin, où deux sorciers qui jouaient aux cartes se levèrent aussitôt pour lui faire de la place.
« Il ne faut surtout pas les stupéfixer, Ruzard !»
s'exclama Ombrage avec colère, comme si c'était lui qui avait prononcé la formule magique.
« Vous avez raison, madame la directrice !»
répondit-il de sa voix sifflante. Ruzard, qui était un craquemolle, aurait été aussi incapable de stupéfixer les feux d'artifice que de les avaler. Il se précipita vers un placard proche, en sortit un balai, et se mit à donner de grands coups en l'air pour essayer de repousser fusées, soleil et dragons. Quelques secondes plus tard, son balai était en feu. Harry en avait vu suffisamment. Éclatant de rire, il courut, penché en avant, vers une porte qu'il connaissait dissimulée par une tapisserie du couloir. Il l'ouvrit, se glissa par l'entrebâillement et se retrouva nez à nez avec Fred et George qui s'étaient cachés là. Secoués d'un rire étouffé, les jumeaux écoutaient les hurlements d'Ombrage et de Ruzard. « Impressionnant !» chuchota Harry avec un sourire. « Très impressionnant! Vous n'aurez aucun mal à réduire le docteur Flibuste au chômage !» « Merci !» murmura George qui essuyait des larmes de rire. « J'espère qu'elle va essayer un sortilège de disparition la prochaine fois. Ça les multiplie par 10 !» Cet après-midi-là, les feux d'artifice continuèrent d'exploser et de se répandre dans toute l'école. Malgré le désordre qu'ils semaient sur leur passage, surtout les pétards, les autres professeurs ne semblaient pas s'en formaliser. « Tiens, tiens, voyez-vous ça ?» dit le professeur McGonagall d'un ton sardonique, tandis que l'un des dragons surgissait dans sa salle de cours en émettant de puissantes détonations et de longs jets de flammes. « Miss Brown, voulez-vous bien courir prévenir Madame la directrice qu'un feu d'artifice est venu se réfugier dans notre classe ?» Le professeur Ombrage dut ainsi passer son premier après-midi de directrice à courir d'un bout à l'autre de l'école pour répondre aux demandes des autres enseignants dont aucun ne semblait capable, sans son aide, de débarrasser sa classe des feux d'artifice vagabonds. Lorsque la cloche sonna la fin du dernier cours de la journée et que tout le monde retourna à la tour de Gryffondor, Harry eut l'immense satisfaction de voir une Ombrage échevelée, couverte de suie et le visage en sueur, sortir d'un pas titubant de la classe du professeur Flitwick.
« Merci beaucoup, professeur !» dit Flitwick de sa petite voix flûtée. « Certes, j'aurais pu me débarrasser moi-même de ces cierges magiques, mais je n'étais pas sûr d'avoir l'autorité nécessaire pour cela. »
Rayonnant, il referma la porte de sa classe sur le visage hargneux d'Ombrage. Ce soir-là, dans la salle commune de Gryffondor, Fred et George furent traités en héros. Hermione elle-même se fraya un chemin parmi la foule des élèves surexcités pour les féliciter de vive voix.
« Ces feux d'artifice étaient une merveille !» dit-elle avec admiration.
« Merci !» répondit Georges, qui paraissait à la fois surpris et content. « Ça s'appelle les feux fous fusboum. Qualité Wesley » précisa-t-il. Le seul ennui, c'est qu'on a utilisé tout notre stock. Il va falloir recommencer la fabrication depuis le début, maintenant.
Ben, « Ça valait la peine !» dit Fred, qui prenait les commandes d'élèves vociférant d'enthousiasme. « Si tu veux ajouter ton nom à la liste d'attente, Hermione, c'est 5 galions la boîte flambée de base et 20 pour la déflagration de luxe. »
Hermione retourna à la table où Harry et Ron étaient assis et contemplaient leurs sacs comme s'ils espéraient que leur devoir allait en jaillir tout seul et se faire d'eux-mêmes.
« Si on prenait plutôt une soirée de repos ?»
proposa Hermione d'un ton allègre alors qu'une fusée au sillage d'étoiles argentées passait devant la fenêtre.
« Après tout, les vacances de Pâques commencent vendredi. On aura tout notre temps à ce moment-là.
Tu te sens bien ?» demanda Ron en la regardant d'un air incrédule.
« Maintenant que tu m'en parles, » répondit joyeusement Hermione, « il est vrai que je me sens un peu rebelle. »
Lorsqu'il monta dans le dortoir en compagnie de Ron, Harry entendait encore les explosions lointaines de pétards égarés. Tandis qu'il se déshabillait, un cierge magique flotta devant la tour en inscrivant dans le ciel le mot « crotte ». Harry se mit au lit en bâillant. Sans ses lunettes, les feux d'artifice qu'il voyait encore passer de temps en temps devant la fenêtre paraissaient flous comme des nuages d'étincelles beaux et mystérieux qui se détachaient contre le ciel noir. Il se tourna sur le côté en se demandant ce qu'Ombrage ressentait à l'issue de ce premier jour où elle avait exercé les fonctions de Dumbledore et comment Fudge réagirait quand il apprendrait que l'école avait été plongée pendant la plus grande partie de la journée dans un état de désordre avancé. Avec un sourire, Harry ferma les yeux. Les sifflements et les explosions des pétards échappés dans le parc semblaient à chaque fois plus distants. Ou peut-être était-ce lui qui s'en éloignait. Il s'était retrouvé directement dans le couloir du département des mystères. Il courait vers la porte noire et lisse. Qu'elle s'ouvre, qu'elle s'ouvre. Elle s'ouvrait. Il entrait à nouveau dans la salle circulaire où s'alignaient les autres portes Il la traversait, posait la main sur une porte identique qui s'ouvrait à son tour vers l'intérieur. À présent, il pénétrait dans une longue pièce rectangulaire où l'on entendait un étrange cliquetis mécanique. Des taches de lumière dansaient sur les murs, mais il ne s'arrêtait pas pour essayer d'en savoir plus. Il devait continuer. Une nouvelle porte apparaissait tout au bout. Elle aussi s'ouvrait dès qu'il la touchait. Maintenant, il était dans une pièce faiblement éclairée, aussi vaste qu'une église, et remplie d'innombrables rangées de hautes étagères sur lesquelles s'entassaient de petites sphères poussiéreuses en verre filé. L'excitation faisait battre son cœur de plus en plus vite. Il savait où aller. Il se mit à courir, mais ses pas ne produisaient aucun son dans l'immense pièce déserte. Il y avait dans ce lieu quelque chose qu'il désirait ardemment, quelque chose qu'il voulait à tout prix, ou que quelqu'un d'autre voulait à tout prix. Sa cicatrice lui faisait mal. Bang ! Harry se réveilla en sursaut, désorienté et furieux. Des rires s'élevaient dans le dortoir obscur. « Super !» s'exclama Simus dont la silhouette se découpait contre la fenêtre. « Je crois qu'un des soleils a heurté une fusée et c'est comme s'ils avaient eu des petits. Venez voir !» Harry entendit Ron et Dean se précipiter hors de leur lit pour assister au spectacle. Il resta étendu, immobile et silencieux, tandis que la douleur de sa cicatrice s'estompait et qu'une terrible déception l'envahissait. Il avait l'impression qu'on lui avait arraché au dernier moment un merveilleux bonheur. Il était arrivé si près, cette fois-ci. Des porcelets ailés, roses et argentés, brillaient à présent devant les fenêtres de la tour de Gryffondor. Harry ne bougea pas. Il écouta les exclamations admiratives qui s'élevaient des dortoirs du dessous. Un spasme nauséeux lui noua l'estomac lorsqu'il se rappela qu'il avait un cours d'occlumencie le lendemain soir. Harry passa la journée du lendemain à redouter ce que Rogue allait dire si jamais il s'apercevait qu'il avait pénétré si loin dans le département des mystères au cours de son dernier rêve. Avec un brusque accès de culpabilité, il réalisa qu'il n'avait fait aucun exercice d'occlumencie depuis leur dernier cours. Il s'était passé trop de choses depuis que Dumbledore était parti. Il était certain qu'il ne serait pas parvenu à se vider l'esprit, même s'il avait essayé. Il doutait cependant que Rogue accepte une telle excuse. Il tenta de faire quelques exercices de dernière minute pendant les cours de la journée, mais sans succès. Hermione ne cessait de lui demander ce qui n'allait pas chaque fois qu'il demeurait silencieux, en s'efforçant de se débarrasser de toute pensée et de toute émotion. Finalement, le meilleur moment pour se vider l'esprit n'était pas celui où les professeurs les soumettaient à un feu nourri de questions pour leur faire réviser ce qu'ils avaient appris au cours du trimestre. Résigné au pire, il se dirigea vers le bureau de Rogue après le dîner. Au milieu du hall d'entrée, cependant, Cho se précipita vers lui. « Par ici !» dit Harry. Content d'avoir un prétexte pour retarder le moment de son rendez-vous avec Rogue, il lui fit signe d'aller dans le coin du hall où se trouvaient les sabliers géants. Celui de Gryffondor était à présent presque vide. « Ça va ? » demanda-t-il. « Ombrage ne t'a pas posé de questions sur l'AD, j'espère. »« Oh non !» répondit précipitamment Cho. « Non, c'est simplement... Je voulais juste te dire, Harry, je n'aurais jamais pensé que Marietta... « Irait raconter. »«
Ouais, bon, » dit-il, avec mauvaise humeur. Il estimait que Cho aurait dû choisir ses amis avec plus de soin. Et il n'avait éprouvé qu'une très mince consolation en apprenant que Marietta était toujours à l'infirmerie et que Madame Pomfraîche n'avait pas réussi à faire disparaître le moindre bouton de son visage.
« C'est vraiment quelqu'un d'adorable, » assura Cho. « Elle a simplement commis une erreur. »
Harry la regarda d'un air incrédule. « Quelqu'un d'adorable qui a commis une erreur ? Elle nous a tous vendus, même toi !»«
On s'en est quand même sortis, non ?» répondit Cho en guise de défense. « Tu comprends ? Sa mère travaille au ministère. C'est très difficile pour elle. »«
Le père de Ron aussi travaille au ministère, » répliqua Harry avec fureur. « Et au cas où tu n'aurais pas remarqué, il n'est pas écrit « cafard » sur son visage. »
« Ça, c'était une horrible perfidie d'Hermione Granger, » dit Cho d'un ton féroce. « Elle aurait dû nous prévenir qu'elle avait jeté un maléfice sur cette liste. »«
Je pense que c'était une excellente idée, » assura froidement Harry. Cho rougit et ses yeux s'agrandirent.
« Ah oui, bien sûr. J'avais oublié que c'était l'idée de la petite Hermione chérie. »«
Ne recommence pas à pleurer, » l'avertit Harry.
« Je n'en avais pas l'intention, » s'écria-t-elle.
« Bon, ben, tant mieux. »
J'ai suffisamment d'ennuis comme ça en ce moment.
Eh bien, va donc t'occuper de tes ennuis,
répliqua Cho furieuse. Elle tourna les talons et s'en alla d'un air indigné.
Écumant de rage, Harry descendit les marches qui menaient au cachot de Rogue. Il savait par expérience que s'il arrivait débordant de colère et de ressentiment, il serait d'autant plus facile à Rogue de pénétrer dans son esprit.
Pourtant, sur le chemin qui le séparait de la porte, il fut incapable de se calmer et ne réussit qu'à penser à d'autres choses encore moins aimables qu'il aurait dû dire à Cho au sujet de Marietta.
« Vous êtes en retard, Potter, »
dit Rogue d'une voix glaciale, alors que Harry refermait la porte derrière lui. Tournant le dos à Harry, Rogue était occupé comme d'habitude à ôter de son esprit certaines pensées qu'il mettait soigneusement de côté dans la pancine de Dumbledore. Il déposa dans la bassine de pierre un dernier filament argenté, puis se tourna vers Harry.
« Alors, » dit-il, « vous vous êtes exercé ?»«
Oui, » mentit Harry, le regard fixé sur un des pieds du bureau.
« C'est ce que nous allons voir très vite, »
répondit Rogue d'une voix veloutée.
« Sortez votre baguette, Potter !»
Harry se mit à sa place habituelle face à Rogue, de l'autre côté du bureau. Il sentait son cœur battre à tout rompre, de fureur contre Cho et d'angoisse à l'idée de ce que Rogue allait encore lui sortir de la tête.
« Attention à trois !»
dit Rogue d'une voix nonchalante.
« Un, deux !»
La porte du bureau s'ouvrit à la volée et Drago Malfoy se précipita dans la pièce.
« Professeur Rogue, oh, pardon !»
L'air surpris, Malfoy regarda successivement Rogue puis Harry.
« Ce n'est pas grave, Drago, »
dit Rogue en abaissant sa baguette magique.
« Potter est venu prendre un petit cours de rattrapage en potion. »
Harry n'avait pas vu Malfoy aussi réjoui depuis qu'Ombrage était venu inspecter le cours de Hagrid.
« Je ne savais pas, »
dit-il. Il lança un regard mauvais à Harry qui sentit ses joues s'embraser. Il aurait donné cher pour pouvoir crier la vérité à Malfoy, ou mieux, lui jeter un maléfice.
« Eh bien, Draco, de quoi s'agit-il ? »
demanda Rogue.
« C'est le professeur Ombrage, monsieur. Elle a besoin de votre aide. Hein? Ils ont trouvé Montague coincé dans des toilettes au quatrième étage. »«
Comment est-il arrivé là ?» interrogea Rogue.
« Je l'ignore, monsieur. Ses explications sont un peu confuses. »«
très bien, Potter, » dit Rogue. « Nous reprendrons cette leçon demain soir. »
Il fit volte-face et sortit à grands pas de son bureau. Malfoy se tourna vers Harry et forma sur ses lèvres, sans les prononcer, les mots « rattrapage en potion ». Puis il suivit Rogue dans le couloir. Bouillonnant de rage, Harry rangea sa baguette magique dans une poche de sa robe et se dirigea à son tour vers la porte. Au moins, il avait 24 heures de plus pour s'exercer. Il aurait dû être content de l'avoir échappé belle, mais le prix à payer était élevé. Malfoy allait s'empresser de raconter partout qu'il avait besoin de cours de rattrapage en potion. Au moment où il allait sortir dans le couloir, son regard fut attiré par une petite lueur dansante sur le montant de la porte. Elle lui rappelait quelque chose et il s'arrêta pour l'observer. Brusquement, il se souvint, cette tache de lumière ressemblait à celle qu'il avait vue dans son rêve de la nuit précédente sur les murs de la deuxième pièce où il était entré au département des mystères. Il se retourna. La lueur provenait de la pancine posée sur le bureau de Rogue. Les filaments argentés ondulaient, tournoyaient à l'intérieur. Les pensées de Rogue. Des choses qu'il ne voulait pas que Harry voie s'il lui était arrivé de forcer accidentellement ses défenses. Harry contempla la pancine. Il sentait la curiosité monter en lui. Qu'est-ce que Rogue tenait tant à lui cacher? Le reflet des lueurs argentées tremblait sur le mur. Harry fit deux pas en direction du bureau. Il réfléchissait. Se pouvait-il que Rogue cherche à lui dissimuler des informations sur le département des mystères? Le cœur battant, plus vite et plus fort que jamais, Harry jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Combien de temps faudrait-il à Rogue pour libérer Montague des toilettes? Reviendrait-il directement dans son bureau ou accompagnerait-il Montague à l'infirmerie? Cette dernière hypothèse était la plus vraisemblable. Montague était capitaine de l'équipe de Quidditch de Serpentard. Rogue voudrait s'assurer qu'il était en bonne santé. Harry parcourut les 2 derniers mètres qui le séparaient de la pancine et plongea son regard dans ses profondeurs. Il hésita, l'oreille aux aguets, puis sortit à nouveau sa baguette magique. Le bureau et le couloir étaient totalement silencieux. Du bout de sa baguette, il remua légèrement le contenu de la bassine de pierre. Les filaments argentés se mirent à tourbillonner très vite. Harry se pencha en avant et vit qu'ils étaient devenus transparents. Cette fois encore, il distinguait l'intérieur d'une grande pièce, comme s'il l'avait regardé à travers une fenêtre circulaire aménagée dans le plafond. S'il ne se trompait pas, c'était la grande salle qu'il avait sous les yeux. Son souffle embuait les pensées de Rogue. Son cerveau lui semblait plongé dans d'étranges limbes. Faire ce qui le tentait tellement serait un acte de folie. Il s'était mis à trembler. Rogue pouvait revenir à tout moment, mais Harry pensa à la colère de Cho, à l'expression narquoise de Malfoy, et un accès de témérité le saisit soudain. Il prit une profonde inspiration et plongea son visage dans les pensées de Rogue. Aussitôt, le sol de la pièce bascula, projetant Harry tête la première dans la pancine. Emporté par un tourbillon furieux, il fit une longue chute dans une obscurité glacée, puis il se retrouva au milieu de la grande salle. Mais les 4 tables auxquelles les élèves des différentes maisons prenaient leur repas avaient disparu. À la place, il y avait une bonne centaine de tables beaucoup plus petites, tournées dans la même direction. Un élève était assis à chacune d'elles, la tête penchée, occupé à écrire sur un rouleau de parchemin. On n'entendait que le grattement des plumes et de temps en temps un froissement de papier lorsque quelqu'un remuait son parchemin. De toute évidence, c'était un jour d'examen. Le soleil projetait des flots de lumière à travers les hautes fenêtres, illuminant les têtes penchées qui étincelaient de reflets bruns, cuivrés ou dorés selon la couleur des cheveux. Harry regarda précautionneusement autour de lui. Rogue devait être présent quelque part. C'était son souvenir. En effet, il était là, juste derrière Harry, qui l'observa attentivement. Rogue, adolescent, paraissait maigre, noueux et blafard, comme une plante qu'on aurait abandonnée dans l'obscurité. Ses cheveux longs, ternes et graisseux pendaient sur la table, et son nez crochu touchait presque le parchemin sur lequel il écrivait. Harry s'approcha pour regarder par-dessus l'épaule de Rogue l'intitulé du questionnaire d'examen. « Défense contre les forces du mal, brevet universel de sorcellerie élémentaire. » Rogue devait donc avoir 15 ou 16 ans, à peu près l'âge de Harry. Sa main volait littéralement à la surface de son parchemin. Il avait écrit au moins 30 centimètres de plus que ses voisins les plus proches, malgré son écriture minuscule et serrée.
« Plus que 5 minutes, hein ?»
La voix fit sursauter Harry. Il se retourna et vit le sommet du crâne de Flitwick qui avançait un peu plus loin entre les tables. Le professeur Flitwick passa devant un élève aux cheveux noirs ébouriffés, très ébouriffés. Harry se déplaça si vite qu'il aurait tout renversé sur son passage s'il avait été à l'état solide. En fait, il lui sembla qu'il glissait, comme dans un rêve, tandis qu'il traversait 2 rangées de tables et en remontait 1/3. Le dos de l'élève aux cheveux noirs se rapprocha et le garçon s'était redressé à présent. Il posait sa plume, reprenait son parchemin au début pour relire ce qu'il avait écrit. Harry s'arrêta devant la table et regarda son père, âgé de 15 ans. Il éprouva au creux de l'estomac un brusque sentiment d'excitation. C'était comme s'il avait contemplé son propre portrait à quelques erreurs près. Les yeux de James étaient couleur noisette, son nez légèrement plus grand que celui de Harry, et il n'y avait pas de cicatrice sur son front. Mais il avait le même visage mince, la même bouche, les mêmes sourcils. Les cheveux de James se dressaient en épi à l'arrière de sa tête exactement comme ceux de Harry. Ses mains était semblable aux siennes et Harry était sûr que lorsque James se lèverait, il aurait la même taille à 1 ou 2 centimètres près. James bâilla en ouvrant grand la bouche et se passa la main dans les cheveux en les ébouriffant encore un peu plus. Puis après avoir jeté un regard au professeur Flitwick, il se tourna sur son siège et adressa un sourire à un autre élève assis 4 rangs derrière. Harry éprouva le même sentiment d'excitation lorsqu'il vit Sirius répondre à James en levant le pouce. Sirius était confortablement installé sur sa chaise qu'il balançait d'avant en arrière. Il était très beau. Ses cheveux bruns tombaient sur ses yeux avec une sorte d'élégance désinvolte que ni James ni Harry n'auraient jamais pu imiter. Et une fille, assise derrière lui, l'observait d'un œil plein d'espoir, bien qu'il n'eût aucun regard pour elle. De table plus loin, Harry éprouva à nouveau un sursaut de plaisir. Il reconnut Rémus Lupin. Il paraissait pâle et faible. La pleine lune approchait-elle ? Et semblait absorbé dans sa copie d'examen. Les sourcils légèrement froncés, il relisait ses réponses en se grattant le menton avec le bout de sa plume. Logiquement, Quetvert devait être également quelque part dans la salle. Et en effet, Harry le repéra quelques secondes plus tard. Il était petit, le nez pointu, les cheveux châtains clairs, sans éclat. Quetvert paraissait anxieux, se rongeait les ongles, les yeux fixés sur son parchemin, le bout de ses chaussures raclant le sol. De temps à autre, il jetait un coup d'œil à la copie de son voisin en espérant y lire quelque chose. Harry l'observa un long moment, puis se tourna à nouveau vers James, qui griffonnait quelque chose sur un morceau de parchemin. Il avait dessiné un vif d'or et traçait à présent les lettres L-E. Que pouvait-elle signifier ?
« Posez vos plumes, s'il vous plaît !»
couina le professeur Flitwick.
« Cela vous concerne également, Stebbins. Veuillez rester assis pendant que je ramasse les parchemins. Accio !»
Plus d'une centaine de parchemins s'envolèrent aussitôt pour atterrir avec force entre les bras tendus de Flitwick qui tomba à la renverse sous le choc. Il y eut quelques rires et deux élèves parmi ceux assis au premier rang se précipitèrent pour l'aider à se relever.
« Merci merci !»
dit le professeur Flitwick d'une voix haletante.
« Très bien. Vous pouvez sortir maintenant !»
Harry regarda à nouveau son père. Entre-temps, il avait enjolivé les lettres L-E, qu'il raya brusquement. Puis il se leva d'un bond, fourra sa plume et son questionnaire d'examen dans son sac, qu'il balança sur son épaule et attendit que Sirius vienne le rejoindre. Harry tourna la tête et aperçut Rogue un peu plus loin. Il se faufilait parmi les tables en direction des portes de la grande salle, toujours absorbé dans son propre questionnaire. Les épaules rondes, mais le corps anguleux, il avait une démarche saccadée qui faisait penser à une araignée, et ses cheveux graisseux voltaient autour de son visage au rythme de ses pas. Un groupe de filles en grande conversation séparait Rogue de James et des autres. Harry se glissa au milieu pour conserver Rogue dans son champ de vision tout en écoutant ce que disaient James et ses amis.
« Ça t'a plu, la question 10, Lunar ?» demanda Sirius tandis qu'ils arrivaient dans le hall d'entrée.
« J'ai adoré !» répondit vivement Lupin. « Donner 5 signes permettant d'identifier un loup-garou ? Excellente question. »«
Tu crois que t'as réussi à les trouver tous ?» demanda James d'un ton faussement inquiet.
« Je pense que oui, »
répondit Lupin très sérieusement.
Ils se mêlèrent à la foule qui se pressait aux portes du hall, avide de sortir dans le parc ensoleillé.
« Premier signe, il est assis sur ma chaise. Deuxième signe, il porte mes vêtements. Troisième signe, il s'appelle Rémus Lupin. »
Quetvert, qui les avait rejoints, fut le seul à ne pas rire.
« Moi, j'ai mis la forme du museau, les pupilles, des yeux et la queue touffue, » dit-il d'un air anxieux. « Mais j'ai rien trouvé d'autre. »«
Tu es donc tellement bête, Quetvert, » dit James irrité. « Tu fréquentes pourtant un loup-garou une fois par mois. »«
Pas si fort, » implora Lupin.
Harry jeta à nouveau un regard inquiet derrière lui. Rogue restait proche d'eux, toujours plongé dans ses questions d'examen. Mais c'était son souvenir à lui, et Harry était certain que si Rogue choisissait de s'éloigner d'eux une fois qu'il serait sorti, lui-même ne pourrait plus suivre James. À son grand soulagement cependant, lorsque James et ses trois amis traversèrent la pelouse en direction du lac, Rogue les imita sans quitter son questionnaire des yeux. Apparemment, il n'avait pas d'idée précise de l'endroit où il voulait aller. En se maintenant à quelques pas devant lui, Harry pouvait continuer à surveiller de près James et les autres.
« Moi, j'ai trouvé que c'était du gâteau, cet examen, » disait Sirius. « Je serais surpris si j'obtenais pas un optimal. »«
Moi aussi, » dit James. Il mit une main dans sa poche et en retira un vif d'or qui se débattait.
« Et où est-ce que t'as eu ça ?»«
Je l'ai piqué, » dit James d'un ton désinvolte. Il se mit à jouer avec le vif d'or qu'il laissait s'envoler à une trentaine de centimètres avant de le rattraper. Ses réflexes étaient excellents, et Quetvert paraissait impressionné. Ils s'arrêtèrent au bord du lac, À l'ombre du même être sous lequel Harry, Ron et Hermione avaient passé un dimanche à finir leurs devoirs et se laissèrent tomber dans l'herbe. Harry regarda une nouvelle fois par-dessus son épaule et fut ravi de constater que Rogue s'était lui aussi installé dans l'herbe, à l'ombre d'un épais fourré. Voyant qu'il était toujours aussi absorbé par ses sujets d'examen, Harry eut toute liberté de s'asseoir entre le hêtre et le fourré pour continuer à observer James et ses amis. Le soleil étincelait à la surface lisse du lac, et les filles qui avaient quitté la grande salle en même temps qu'eux s'étaient assises sur la rive. Hilar, elles avaient enlevé leurs chaussures et leurs chaussettes et se trempaient les pieds dans l'eau. Lupin avait sorti un livre qu'il s'était mis à lire. Sirius regardait les autres élèves se presser sur la pelouse. Il affichait un air hautain et ennuyé, mais avec beaucoup d'élégance. James, lui, continuait de jouer avec le vif d'or qu'il laissait filer de plus en plus loin et rattrapait, à la dernière seconde, au moment où il était presque parvenu à s'échapper. Cudvert le regardait bouche bée. Chaque fois que James réussissait à saisir le vif d'extrême justesse, Cudvert étouffait une exclamation et applaudissait. Au bout de 5 minutes, Harry se demanda pourquoi il ne conseillait pas à Cudvert de se contrôler un peu, mais James semblait prendre plaisir à être l'objet de son attention. Harry remarqua que son père avait la manie de s'ébouriffer les cheveux d'un geste de la main pour éviter qu'il ne paraisse trop bien coiffé. Il remarqua également qu'il ne cessait de lancer des coups d'œil en direction des filles assises au bord du lac. « Range ça, tu veux ?» dit enfin Sirius. Une fois de plus, James venait de rattraper le vif d'or d'un geste virtuose et Cudvert avait poussé un cri d'admiration. « Sinon, Cudvert va tellement s'exciter qu'il finira par s'oublier. » Cudvert rosit légèrement et James eut un sourire. « Si ça te gêne, » dit-il en rangeant le vif d'or dans sa poche. Harry eut la très nette impression que Sirius était le seul qui pouvait décider James à cesser de jouer les matuvus.
« Je m'ennuie, » dit Sirius. « J'aimerais bien que ce soit la pleine lune. »«
Espère toujours, » dit Lupin d'un ton grave derrière son livre. « Si tu t'ennuies, on a encore l'épreuve de métamorphose. Tu n'as qu'à me faire réviser. Tiens !»
Il lui tendit son livre, mais Sirius renifla d'un air méprisant. « Je n'ai pas besoin de ces idioties, je sais déjà tout. »«
Tiens, voilà de quoi t'amuser un peu, Patmol, » dit James à voix basse. « Regarde qui est là !»
Sirius tourna la tête et s'immobilisa comme un chien qui vient de sentir la piste d'un lapin.
« Parfait !» murmura-t-il. « Servilus !»
Harry se retourna pour suivre le regard de Sirius.
Rogue s'était relevé et rangeait le questionnaire des bus dans son sac. Lorsqu'il quitta l'ombre des buissons et s'éloigna sur la pelouse, Sirius et James se levèrent à leur tour. Lupin et Cudvert restèrent assis. Lupin était toujours plongé dans son livre, mais ses yeux restaient immobiles et une légère ride était apparue entre ses sourcils. Cudvert regarda successivement Sirius et James, puis Rogue, une expression d'avidité sur le visage.
« Ça va, Servilus ?»
lança James d'une voix forte.
Rogue réagit si vite qu'il semblait s'être attendu à cette attaque. Lâchant son sac, il plongea la main dans une poche de sa robe de sorcier et sa baguette était à moitié levée lorsque James cria
« Expelliarmus !»
La baguette magique de Rogue fit un bond de 4 mètres dans les airs et retomba derrière lui avec un petit bruit mat. Sirius éclata d'un grand rire qui ressemblait à un aboiement.
« Impedimenta !»
dit-il en pointant sa propre baguette sur Rogue qui fut projetée à terre au moment où il plongeait pour ramasser la sienne.
Autour d'eux, les élèves s'étaient retournés et regardaient. Plusieurs d'entre eux se levèrent pour venir voir d'un peu plus près. Certains semblaient inquiets, d'autres avaient l'air de s'amuser.
Rogue était allongé par terre, le souffle court. James et Sirius s'avancèrent vers lui, leurs baguettes brandies. En même temps, James lançait des regards par-dessus son épaule vers les filles assises au bord du lac. Cudvert était également debout à présent. Il avait contourné Lupin pour mieux voir et contempler le spectacle avec délectation.
« Alors, comment ça s'est passé ton examen, Servilo ?»
demanda James.
« Chaque fois que je le regardais, son nez touchait le parchemin, » dit Sirius d'un air mauvais.
« Il va y avoir de grosses taches de gras sur toute sa copie. Ils ne pourront pas en lire un mot. »
Des rires s'élevèrent un peu partout. De toute évidence, Rogue n'était pas très aimé. Cudvert émit un ricanement aigu. Rogue essayait de se relever, mais le maléfice agissait encore sur lui.
Il se débattait comme s'il était attaché par d'invisibles cordes.
« Attends un peu. »
haleta-t-il en regardant James avec une expression de haine.
« Attends un peu. »
« Qu'est-ce qu'il faut attendre ?» demanda Sirius avec froideur. « Qu'est-ce que tu as l'intention de nous faire, Servilo ? T'essuyer le nez sur nous ?»
Rogue laissa échapper un flot de jurons et de formules magiques, mais avec sa baguette à 3 mètres de lui, rien ne se passait.
« Qu'est-ce que c'est que ces grossièretés ? Lave-toi la bouche !» dit James d'un ton glacial. « Récure vite !»
Des bulles de savon rose s'échappèrent alors de la bouche de Rogue. La mousse qui recouvrait ses lèvres le faisait tousser, l'étouffait à moitié.
« Laissez-le tranquille !»
James et Sirius se retournèrent. James se passa aussitôt la main dans les cheveux. L'une des filles assises au bord du lac s'était levée et s'approchait d'eux. Elle avait une épaisse chevelure roux foncé qui lui tombait sur les épaules et d'extraordinaires yeux verts en amande, les yeux de Harry. La mère de Harry.
« Ça va, Evans ?» demanda James. Tout à coup, le ton de sa voix était devenu beaucoup plus agréable, plus grave, plus mûr.
« Laisse-le tranquille !» répéta Lily.
Elle regardait James avec la plus grande répugnance.
« Qu'est-ce qu'il t'a fait ?»«
Eh bien voilà !» répondit James qui sembla réfléchir à la question.
« Le plus gênant chez lui, c'est le simple fait qu'il existe, si tu vois ce que je veux dire. »
Un bon nombre d'élèves éclatèrent de rire, y compris Sirius et Queudevert. Mais Lupin, toujours concentré sur son livre, resta impassible, tout comme Lily.
« Tu te crois très drôle, » dit-elle d'un ton glacial. « Mais tu n'es qu'une abominable petite brute arrogante, Potter. Laisse-le tranquille.
»« C'est d'accord, à condition que tu acceptes de sortir avec moi, Evans, » répondit précipitamment James.
« Allez, sors avec moi, et je ne porterai plus jamais la main sur le vieux Servilo. »
Derrière lui, les effets du maléfice d'entrave se dissipaient. Rogue rampait imperceptiblement vers sa baguette en crachant de la mousse de savon.
« Je ne sortirai jamais avec toi, même si je n'avais plus le choix qu'entre toi et le calmar géant, » répondit Lily.
« Pas de chance, Cornedru, » dit vivement Sirius, qui se tourna à nouveau vers Rogue. « Oh, attention !» Mais il était trop tard. Rogue avait pointé sa baguette droit sur James. Il y eut un éclair de lumière et une entaille apparut sur la joue de James, éclaboussant sa robe de sang. James fit volte-face. Un deuxième éclair de lumière plus tard, Rogue se retrouva suspendu dans le vide, les pieds en l'air. Le bas de sa robe était tombé sur sa tête, révélant 2 jambes maigres et un caleçon grisâtre. Des acclamations s'élevèrent de la petite foule des élèves. Sirius, James et Queudevert rugissaient de rire. Lily, dont le visage furieux avait un instant tressailli, comme si elle allait sourire, lança
« Fais-le descendre !»
« Mais certainement, » dit James. Il donna un léger coup de baguette et Rogue retomba par terre comme un petit tas de chiffons. Se dépêtrant de sa robe, il se hâta de se relever, la baguette brandie. Mais Sirius s'exclama « Petrificus totalus !» et Rogue bascula à nouveau par terre, raide comme une planche.
« Laissez-le tranquille !»
hurla Lily. Elle avait sorti sa propre baguette à présent, sous l'œil méfiant de James et de Sirius. « Ah !» « Evans, ne m'oblige pas à te jeter un sort, » dit James avec gravité.
« Alors libère-le du maléfice !»
James poussa un profond soupir, puis se tourna vers Rogue et marmonna la formule de l'antisort. « Et voilà, » dit-il, tandis que Rogue se relevait tant bien que mal. « Tu as de la chance qu'Evans ait été là, Servilus !»«
Je n'ai pas besoin de l'aide d'une sale petite sandbourbe comme elle !»
Lily cligna des yeux.
« Très bien, » dit-elle froidement. « Je ne m'en mêlerai plus à l'avenir. Et si j'étais toi, je laverais mon caleçon, Servilus. »«
Fais des excuses à Evans !» rugit James d'une voix menaçante, sa baguette magique pointée sur Rogue.
« Je ne veux pas que tu l'obliges à s'excuser !» s'écria Lily en se tournant vers James. « Tu es aussi mauvais que lui !»«
Quoi ?» protesta James. « Jamais je ne t'aurais traité de... tu sais quoi ?»«
Tu te mets les cheveux en bataille parce que tu crois que ça fait bien d'avoir toujours l'air de descendre de son balai. Tu te pavanes avec ce stupide vif d'or. » Tu jettes des maléfices à tous ceux que tu n'aimes pas, simplement parce que tu sais le faire. Ça m'étonne que ton balai arrive encore à décoller, avec une tête aussi enflée. Tu me fais vomir !»
Elle tourna les talons et s'éloigna à grands pas.
« Evans !» lui cria James. « Evans !»
Mais elle ne regarda pas en arrière.
« Qu'est-ce qui lui prend ?»
dit James en essayant sans succès de faire comme s'il s'agissait d'une question très secondaire à laquelle il n'attachait aucune importance.
« Si je lis entre les lignes, je dirais qu'elle te trouve un peu prétentieux, » répondit Sirius.
« Ah, c'est ça !»« Très bien !» marmonna James, qui paraissait furieux à présent. « Très bien !»
Il y eut un autre éclair de lumière et Rogue se retrouva à nouveau suspendu, les pieds en l'air.
« Qui veut me voir enlever le caleçon de Servilo ?»
Mais Harry ne sut jamais si son père était parvenu à ses fins. Une main s'était refermée sur son bras avec la force d'une tenaille. Harry fit une grimace de douleur et se retourna pour voir qui l'avait attrapé ainsi. Horrifié, il vit alors à côté de lui un Rogue adulte et livide de rage.
« Vous vous amusez bien !»
Harry se sentit soulevé dans les airs. Autour de lui, la belle journée d'été s'évanouit. Il flottait à présent dans une obscurité glacée, la main de Rogue toujours serrée sur son bras. Puis avec la sensation de retomber en chute libre, comme s'il avait fait un saut périlleux dans le vide, ses pieds heurtèrent le sol de pierre du cachot et il se retrouva debout devant la pancine, posée sur la table dans le bureau obscur du maître des potions.
« Alors !»
dit Rogue en lui serrant si fort le bras que Harry sentait sa main s'engourdir.
« Alors, vous avez passé un bon moment, Potter ?»«
Non !» répondit Harry qui essayait vainement de libérer son bras. Le visage de Rogue était effrayant. Ses lèvres tremblaient, son teint était blanc, ses dents découvertes.
« Un homme très amusant, votre père, n'est-ce pas ?»
dit Rogue en secouant Harry si vigoureusement que ses lunettes glissèrent sur son nez.
« Je n'ai pas !» Rogue poussa Harry de toutes ses forces, le projetant brutalement à terre. « Vous ne raconterez à personne ce que vous avez vu »
vociféra-t-il.
« Non !»
répondit Harry en se relevant le plus loin possible de Rogue.
« Non, bien sûr, je ne... »« Sortez ! Sortez ! Je ne veux plus jamais vous revoir dans ce bureau !»
Et tandis que Harry se ruait vers la sortie, un bocal rempli de cafards morts explosa au-dessus de sa tête. Il ouvrit la porte à la volée et fonça dans le couloir. Il ne s'arrêta que lorsqu'il eut mis 3 étages entre Rogue et lui. Harry s'appuya alors contre le mur, la respiration haletante, massant son bras meurtri. Il n'avait pas la moindre envie de retourner de si bonne heure dans la tour de Gryffondor, ni de raconter à Ron et à Hermione la scène à laquelle il venait d'assister. Ce qui horrifiait tant Harry, ce qui le rendait si malheureux, ce n'était pas les hurlements de Rogue ou les jets de bocaux. C'était le fait qu'il savait ce que l'on ressent lorsqu'on est humilié au milieu d'un cercle de spectateurs. Il savait exactement ce qu'avait éprouvé Rogue au moment où James Potter l'avait ridiculisé et à en juger parce qu'il venait de voir, son père était bel et bien le personnage arrogant que Rogue lui avait toujours décrit.